Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi à 11h sur France Culture, une émission préparée ce matin par Bertie Bourdon mais aussi Mélanie Chalandon, Lucas Lazo, réalisée par Vincent Abouchard et mise en onde ce matin par Laurie Vachon. Nouvelle série donc consacrée aux 10 ans de ce qu'on a appelé les printemps arabes. Nous parlerons demain de ces pays où, malgré la révolte, les militaires ont gardé la main sur le pouvoir, en Égypte, au Soudan. On évoquera la situation de ces pays dans lesquels les guerres civiles se sont transformées en conflits armés permanents sous l'effet notamment d'ingérences étrangères. On parlera de la Syrie et de la Libye. Puis on ira dans ces capitales, Bagdad et Beyrouth, où comme une réplique aux révolutions de 2010, on a assisté plus récemment à l'émergence de mouvements populaires qui visaient à dépasser les clivages confessionnels. Mais pour commencer, cap bien sûr sur ce pays où tout a commencé et qui fait figure d'exception, la Tunisie.
Depuis toujours, nous voulions travailler pour notre pays, la Tunisie, construire une maison, avoir un travail, mais cela semblait impossible. Alors quand la révolution a eu lieu, nous étions heureux en pensant que la situation allait changer, qu'il y aurait des projets, mais rien n'a été fait.
Il n'y a rien de changé. Les autorités ont un peu embelli les bâtiments des services publics avec du plâtre et du fer forgé en disant « voici un nouveau service public ». Mais en ce qui concerne le service lui-même, c'est un zéro bien arrondi.
Après la révolution, on se sent plus libre à créer nos propres projets, à ne pas attendre vraiment des emplois dans le secteur public.
C'est comme s'il n'y avait pas eu la révolution. Au contraire, la situation du pays empire. Que des promesses. On va faire, mais en fait rien.
Voilà, on l'entend, il y a aussi de la désillusion sur ce chemin de la démocratie. Il y a 10 ans maintenant, la Tunisie vivait une révolte populaire historique, partie de la ville de Sidi Bouzid, où un jeune vendeur ambulant, Mohamed Bouazizi, s'était immolé par le feu après s'être vu confisquer sa marchandise par les autorités. S'en étaient suivies plusieurs semaines de mobilisation qui avaient abouti au départ de l'indéboulonnable Ben Ali au pouvoir depuis 1987, un événement qui sera l'acte d'origine d'un soulèvement qui touchera l'ensemble du monde arabe. Depuis, la Tunisie fait l'expérience d'une vie politique démocratique, faite de scrutins ouverts, de multipartisme, de liberté d'expression, même si en la matière, tout n'est pas acquis, on va le voir. Alors qu'est-ce qui a changé depuis janvier 2010? Quelles sont les grandes réformes qui ont été menées et quel chemin reste-t-il à parcourir? Comment avancer dans un paysage parlementaire particulièrement morcelé? Cette demande de dignité qui émanait du mouvement populaire à l'époque a-t-elle été entendue? Où en est-on de l'économie dans un contexte où le terrorisme islamiste a entamé les capacités touristiques? Et d'ailleurs, quelle menace représente-t-il pour la sécurité du pays aujourd'hui? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin d'abord Sophie Bessis. Bonjour Sophie Bessis.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes historienne, vous avez notamment signé, c'était en 2019 chez Talendier, une histoire de la Tunisie de Carthage à nos jours. Avec nous est également Leïla Dakhri, bonjour.
Bonjour.
Merci également, vous êtes historienne également et vous êtes chercheuse au CNRS, au centre Marc Bloch. Vous avez dirigé l'ouvrage collectif « L'esprit de la révolte » qui était paru au Seuil en octobre dernier. Quand on s'interroge sur la Tunisie et quand on interroge les Tunisiens sur le bilan de la révolution de Jasmin, on a des réponses qui sont assez diverses, voire carrément contradictoires. D'un côté, on sent quand même une certaine fierté à avoir conduit ce mouvement, à avoir obtenu un certain nombre d'avancées réelles, notamment en matière de démocratisation, même si c'est vrai que ce mot-là pose problème. Mais en tout cas, il est clair que la Tunisie fait un peu exception dans le paysage des printemps arabes. Et puis de l'autre côté, on a ce discours qu'on a un peu entendu, Sophie Bessis, qui consiste à dire qu'en réalité, eh bien, les choses sont très difficiles aujourd'hui, que rien n'a changé ou pas grand-chose, que la situation économique et sociale est catastrophique, voire même parfois, c'est aussi ce qu'on entend parfois, que les choses sont pires qu'à l'époque de Ben Ali. Vous revenez tout juste de Tunis, Sophie Bessis, vous placez le curseur à quel endroit? Quel bilan vous faites de cette révolution tunisienne 10 ans après le départ de Ben Ali? Je vous ai invité de très nombreuses fois depuis justement ce départ. On a régulièrement fait des points d'étape. On est à un moment anniversaire. Sophie Bessis, quel bilan vous faites pour ces commémorations?
Alors, merci d'abord de m'avoir invité encore une fois. Et je ne ferai pas de bilan pour la raison que, d'abord, il est très difficile de faire un bilan et nous y mettrions beaucoup plus d'une heure. Par ailleurs, le 14 janvier 2011, la Tunisie est entrée dans une nouvelle phase de son histoire. et elle est au milieu du gué. Et on ne peut pas faire de bilan pour un pays qui est aujourd'hui au milieu du gué. Ça, c'est la première chose, je crois, qu'il faut constater. L'histoire n'est pas finie, elle ne fait même que commencer, dirais-je. Et certes, la situation de la Tunisie aujourd'hui est tout à fait préoccupante sur plusieurs points, mais je m'inscris en faux contre le discours dominant que l'on entend depuis le 17 décembre et toutes les radios et les télévisions françaises, peut-être un peu paresseuses, je dirais, ont reproduit le même discours, rien n'a changé. Alors on est allé interviewer les gens à Sidi Bouzid, tout le monde dit rien n'a changé ou c'est pire. En fait, tout a changé, mais seulement tout n'a pas forcément changé en mieux. Et certaines choses ont changé en pire. Je crois que c'est comme ça qu'il faut poser le tableau. Et non pas pour dire rien n'a changé. La Tunisie d'aujourd'hui n'est plus la même que la Tunisie du 16 décembre 2010.
Leïla Dakhli.
C'est le premier constat qu'il faut faire.
Ouais. Leïla Dakhli, est-ce que vous faites le même constat que Sophie Bessis? On se souvient qu'il y avait quelque chose qui était quand même au cœur des revendications il y a 10 ans, c'était la question de la dignité, c'est-à-dire de la justice sociale. De ce point de vue-là, quel bilan vous tirez de la décennie? Est-ce que vous diriez que ça s'est amélioré ou que, au contraire, pour rejoindre peut-être les propos, les derniers propos de Sophie Bessis, au fond, les choses sont pires qu'il y a 10 ans?
Oui, alors d'abord, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Sophie Bessis. On est tout à fait à un moment où il est difficile de faire des bilans. Et donc, on peut en effet constater qu'il y a une frustration légitime qui vient du fait qu'en réalité, beaucoup de choses ont changé, mais que ces transformations ne se traduisent pas forcément, ou j'espère pas encore, dans le quotidien des plus démunis ou des plus précaires. Et donc cette question de la perception de sa situation ou de la situation sociale est très très tendue, et non seulement de la perception, mais la réalité sociale est très dure pour beaucoup des Tunisiennes et des Tunisiens. Donc ça, quand on dit ça, on ne dit pas que la révolution n'a rien transformé. On dit simplement que ces bouleversements n'ont pas forcément affecté la vie des gens tels qu'ils l'espéraient au moment où ils sont sortis dans les rues en décembre 2010.
Oui, c'est pas seulement de la perception, parce que quand on regarde les chiffres et qu'on compare par exemple la décennie 2000 à la décennie 2010 en termes de pouvoir d'achat par exemple, il avait beaucoup augmenté dans les années 2000 de l'ordre de 20%. Sur la période 2010, enfin sur la décennie 2010, entre 2011 et 2018, pour lequel on a vraiment des chiffres bien consolidés, le pouvoir d'achat, il a régressé de 4%. Donc c'est pas seulement de la perception. Si on regarde les choses, Sophie Bessis, ce tableau économique et social, on pourrait avancer un certain nombre d'autres indicateurs, par exemple le chômage. 16% de chômage au niveau national, ça monte à 35% pour les plus jeunes. On a des données qui montrent que plus de 15% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Pourquoi cet échec? Jusqu'où les dirigeants, les partis qui ont géré les affaires depuis 10 ans sont responsables de cela? Parce que globalement, la situation n'est pas excellente ailleurs. On a hérité quand même d'une situation qui était difficile déjà au départ. Jusqu'où est-ce qu'il faut les mettre responsables de cette situation, Sophie Bessis?
Je crois que je peux faire une réponse à plusieurs étages. D'abord, la révolution, et plutôt ce qui s'est passé après, repose sur un immense malentendu. Ça, c'est la première chose. Pourquoi? Parce que les premières revendications de cette révolution dans l'intérieur du pays sont des revendications de nature sociale, avant tout. Un travail, un emploi, la dignité, et qu'on rendait le régime Ben Ali responsable de la panne sociale du pays. Ensuite de quoi, à partir du 14 janvier, les revendications ont été prises en charge par d'autres acteurs et se sont concentrées sur des revendications de type politique, c'est-à-dire le changement de constitution, la démocratisation, la mise en place d'institutions démocratique, etc. Et à partir de ce moment-là, vous avez un hiatus entre des revendications sociales qui passent au second plan et des revendications politiques qui occupent la totalité de l'espace public. Ça, c'est la première chose. Et que donc, évidemment, les initiateurs de ces revendications sociales se sentent, à juste titre, totalement frustrés. En second lieu, la situation économique. Alors, la situation économique, certes, il y a des choses qui ont empiré et des choses qui n'ont pas empiré. Si on prend les grands agrégats, les indicateurs économiques, et tout à fait par hasard, je suis en train de faire un travail aujourd'hui sur la Tunisie dans les années 60 et au début des années 70, et bien de 1900, évidemment, du 20e siècle, eh bien, le taux de chômage, en gros, n'a absolument pas bougé depuis 40 ans. La nature des chômeurs a changé, et ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les chômeurs diplômés, parce qu'il y a eu une massification de l'accès à l'université, les chômeurs diplômés sont extrêmement nombreux et ont des possibilités de revendication beaucoup plus importantes que la vieille figure du chômeur pauvre. Donc voilà. Donc la situation économique est mauvaise. Vous l'avez dit au niveau du tourisme, c'est tout à fait vrai. À la fois les soubresauts révolutionnaires, le terrorisme, la situation mondiale et maintenant évidemment le Covid font que le secteur touristique est sinistré. Et enfin, je voudrais insister sur une autre chose, c'est-à-dire que le délitement de l'État, dû effectivement, comme vous l'avez suggéré, à la médiocrité des acteurs politiques aujourd'hui et de la classe politique prise dans son ensemble, le délitement de l'État a laissé la place à un système que l'on appelle pudiquement informel, mais qui est en grande partie mafieux. Et ce système informel, en grande partie mafieux, est un des grands problèmes de l'économie tunisienne aujourd'hui.
Alors justement, Leïla Dakhli, on laisse les questions politiques de côté, on va y venir évidemment. Sophie Bessis nous a bien dit qu'elles étaient devenues centrales, alors même qu'au départ on oublie, mais c'est essentiellement des questions économiques et sociales qui intéressaient les manifestants. On va commencer justement par ces questions, parce que Sophie Bessis parle de système informel et mafieux. Quand on parlait des défis de la Tunisie juste après le départ de Ben Ali, je me souviens bien, il y a 10 ans, on soulignait immanquablement le problème de la corruption, avec une famille qui tenait l'essentiel de l'économie, une corruption systémique qui était l'obstacle majeur à son amélioration. 10 ans après, où est-ce qu'on en est? Est-ce que cette économie a été un peu assainie? Est-ce qu'il y a eu des efforts pour tenter de lutter contre la corruption? On est toujours dans la même situation où, au fond, on a une poignée d'individus qui a la main sur les richesses et rien n'a changé, Leïla Dakhli.
Oui, merci de poser cette question. Je pense que c'est en effet assez complexe de penser l'économie et la situation économique et sociale en Tunisie uniquement avec des données macro sur cette question du taux de chômage ou sur cette question. Finalement, on tourne en rond et c'est d'une certaine manière ce que vient de souligner Sophie Bessis en disant que ça ne bouge pas. Si on regarde de près ce qui s'est passé en décembre 2010, Mohamed Bouaziz est un acteur de l'économie informelle. En réalité, vendeur ambulant, il est donc à la merci d'un arbitraire du pouvoir qui peut le tolérer ou lui interdire d'exercer son métier. Hein. Et donc quand on parle de chômeurs, on parle aussi beaucoup du secteur informel. C'est pour ça que je pense qu'il est très complexe d'opposer en fait le secteur informel et le secteur formel dans une économie comme l'économie tunisienne, parce que ça ne nous permet pas de voir en fait comment vivent les gens, pour le dire très très clairement. Et c'est là qu'en effet la question de la corruption intervient, parce que on parlait de manière générale d'une corruption d'État, de la famille, etc., de Ben Ali, mais on parlait moins souvent des petites strates de la corruption quotidienne. Justement, cette fameuse tolérance, le fait qu'il faille glisser un petit billet pour être autorisé à mener cette activité dite informelle et qui en fait constitue une bonne partie de l'économie. C'est tout ceci qui a été bouleversé par la révolution. Et qui n'arrive pas à trouver de nouvelles marques en dehors d'un système corrompu d'État ou d'un système mafieux localisé. En réalité, intégrer l'activité informelle dans l'économie formelle d'un pays, c'est extrêmement complexe à faire et il n'est pas du tout certain que ce soit possible de le faire si on réfléchit à l'échelle de l'économie mondiale et qu'on voit comment l'économie quotidienne dans beaucoup de pays du monde se fait. On sait qu'une bonne part de cette économie et même d'une bonne part de la création de richesse vient de cette informalité, hein, des systèmes.
Mais est-ce qu'aujourd'hui,
c'est pour ça que ça nécessiterait.
Ouais. Pardon, excusez-moi de vous couper. Est-ce qu'il y a toujours aujourd'hui autant de corruption autour de ce système informel, justement?
Mais c'est pour ça que c'est ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'en fait, c'est difficile de même de parler de corruption. Mm-hmm. Il s'agit, bon, on peut parler de système mafieux, mais je pense que ça introduit un jugement peut-être moral. C'est comme quand on parle, le pouvoir parle beaucoup de système mafieux, de trafic, par exemple, quand il cherche à assainir ce qui peut se passer dans le sud tunisien, par exemple. En réalité, dans la perception des gens qui vivent de ces systèmes-là, il s'agit pas forcément de commerces illégaux, mais de commerces, anciens, ancrés dans des traditions finalement de frontaliers, par exemple. Donc, moi, je serais pour en fait réfléchir de manière peut-être plus fine sur cette notion de corruption, essayer de comprendre ce qui relève, par exemple, du clientélisme, ce qui relève des effets d'aubaine, justement. De gens qui sont dans des situations, par exemple, frontalières et qui peuvent jouer d'un certain nombre de différentiels, et aussi, bien sûr, la corruption à l'échelle de l'État. Et là, c'est vrai qu'il y a une vraie difficulté. Je dirais, là, pour le coup, il s'agit d'assainir l'État et son fonctionnement et de réfléchir à la manière dont l'État peut s'affranchir de la corruption.
Sophie Bessis, vous rejoignez Leïla Dakhli, il faut être un peu plus fin dans son analyse, sa perception des choses, on peut pas parler de façon générique de corruption, ou alors on passe à côté de certaines choses, Sophie Bessis.
Je crois qu'il faut distinguer plusieurs sortes d'informels, et que ce terme d'informel est un terme vague et c'est un mot valise. Il y a effectivement le petit informel, comme le marchand de légumes ambulant, comme l'était Bouazizi, et comme le sont beaucoup de gens aujourd'hui en Tunisie, qui est ce qu'on appelle en France le travail au noir, tout simplement. Bon. Ensuite, il y a un informel, je dirais intermédiaire, qui est tout l'informel qui se passe aux frontières. Les populations des frontières, aussi bien avec la frontière libyenne, bien qu'elle soit fermée à intervalles réguliers, qu'avec la frontière algérienne, vivent de commerce avec le pays voisin. Alors ce commerce, il peut être une façon, effectivement, de gagner sa vie beaucoup plus vite, d'ailleurs, que quand on est salarié, employé du secteur privé ou du secteur public. Et il faut bien dire que c'est pour cela que beaucoup de jeunes refusent des emplois, parce que l'informel fait gagner beaucoup mieux sa vie. Et puis, mais seulement le problème de cet informel transfrontalier, c'est qu'il est à la fois un petit commerce ou un commerce moyen, mais que c'est aussi un commerce des armes, mais c'est aussi un commerce de drogue. Donc, il englobe tout. Il englobe des activités que l'on pourrait appeler illégales mais licites et des activités totalement illicites. Et ensuite, vous avez tout de même l'appartenance d'un certain nombre de réseaux en Tunisie à de grands réseaux transnationaux, dont certains sont au cœur de l'État. Et aujourd'hui, en Tunisie, on parle énormément du scandale des déchets, par exemple, et de l'importation de déchets toxiques italiens en Tunisie, avec la complicité d'un certain nombre d'acteurs étatiques ou para-étatiques. Et là, il s'agit de la grande... corruption, du commerce mafieux. Donc, je crois qu'il faut distinguer ces étages-là. Et au fond, si ce qui reste d'État en Tunisie, car il est très affaibli aujourd'hui, autorise ou ferme les yeux sur le petit commerce transfrontalier, parce que c'est un amortisseur de la colère sociale. Et quand on va dans certaines villes frontalières comme Kasserine ou comme Ben Garden, etc., eh bien, le paradoxe, c'est que ce sont des régions d'une grande pauvreté, mais qui continuent à se débrouiller, plus ou moins, où les gens se débrouillent, parce qu'il y a ces soupapes de sûreté, mais ces soupapes de sûreté sont également un des facteurs de l'affaiblissement de l'État tunisien.
On va parler dans un instant de la question de la Constitution, de la nouvelle Constitution de 2014, mais avant cela, il y a quand même un élément sur lequel il faut se pencher un peu, Leïla Dakhli, c'est la question de l'insécurité et du terrorisme. Parce que, d'ailleurs, pour comprendre les difficultés économiques qu'on vient d'évoquer, il faut aussi introduire cette question de l'insécurité, parce que durant cette décennie, on a un pays qui a aussi dû faire face à des attentats particulièrement dramatiques qui ont provoqué l'effondrement du secteur touristique, qui, on le sait, est une manne très importante. On pense évidemment aux attentats de Sousse de juin 2015, on pense à l'attaque du musée du Bardo de quelques semaines, enfin la même année. Donc là, il y a deux éléments. Il y a d'abord jusqu'où est-ce qu'au fond cette question de l'insécurité, du terrorisme peut expliquer les difficultés économiques du pays. Est-ce que c'est une vraie justification ou est-ce que c'est autre part que ça se joue? Et puis l'autre volet, c'est celui aussi d'une décennie quand même, cette décennie 2010, où on a vu émerger un terrorisme islamiste tunisien que l'on ne connaissait pas avant. Alors peut-être qu'il était là, latent quelque part, mais il n'empêche qu'il ne s'illustrait pas de la même manière. Alors je rappelle quand même que la Tunisie est un des pays qui a envoyé le plus de combattants dans les rangs de Daesh. Alors est-ce qu'il faut, deuxième élément, en conclure que d'une certaine manière, c'était le prix à payer pour cette démocratisation, une fois encore, je mets des guillemets, j'aime pas tellement le terme, mais enfin, le prix à payer pour cette transformation du régime. Leïla Dakhri.
Oui, je vais répondre d'abord à votre deuxième question pour dire que malheureusement les Tunisiens ont toujours fait partie des djihadistes internationaux de manière assez importante. C'était le cas dans les mouvements précédents et pas simplement à Daesh et en Syrie. Et c'est une étrange anomalie, ou je ne sais comment la nommer, mais sur laquelle il y a déjà beaucoup été écrit.
Mais il n'y avait pas de terrorisme international à l'époque de Ben Ali.
Après 2011, ouais, je vous en prie. Voilà, ce qui s'est passé après 2011, c'est que le djihadisme arrive aussi sur le territoire tunisien de manière plus claire et plus visible, et qu'une partie de ces cellules s'y installe, là aussi pensant y trouver un lieu propice, hein, comme dans tous les pays déstabilisés par des changements massifs. Hein, on l'a vu dans pas mal de pays de la zone, et je pense que vous aurez l'occasion d'y revenir cette semaine. Donc c'est un effet pour le coup de la situation révolutionnaire elle-même. Donc ça a déstabilisé évidemment l'économie, mais je dirais même aussi la société tunisienne, hein, avec une espèce d'effet de visibilisation alors très abrupt et très soudain de cette tendance politique déjà pour commencer, c'est-à-dire de manière plus claire, l'affichage religieux, voire l'affichage islamiste sont devenus plus évidents dans les rues tunisiennes, la multiplication des écoles privées d'inspiration islamique, tout ça fait une sorte d'ensemble que je mets absolument pas sous le terme djihadisme, hein, mais c'est un ensemble d'éléments qui sont apparus de manière très très choquante, je dirais, après la révolution. Mais justement, il faut pas mettre tout dans le même sac, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de visibilisation de l'appartenance religieuse et y compris de l'appartenance politique islamiste qui est naturelle, disons, après la chute du régime de Ben Ali, qui lui avait réprimé fortement ces signes extérieurs d'appartenance religieuse et d'appartenance politique. Et puis il y a ce qui vient du contexte lui-même et de l'essor, hein, des mouvements djihadistes après 2011. Donc là, avec cet effet aussi d'installation sur le terrain et évidemment cette opportunité politique qui est pour une partie de la jeunesse le départ vers la Syrie en l'occurrence, hein. Moi je pense qu'il faut aussi le considérer comme ça quand on parle d'une jeunesse qui fait face à d'énormes blocages. Le djihadisme apparaît, et on l'a vu, ça a été travaillé, hein, aussi par du point de vue économique, ça apparaît comme une sortie possible de situations compliquées personnelles et familiales. Donc ça, c'était. Je me souviens plus de votre première question. Je pense que
la première question, c'était le lien entre
le. Oui,
non, c'est bien, pas de souci. C'était le lien entre le terrorisme et les difficultés économiques. Mais je vais peut-être faire intervenir aussi Sophie Bessis sur ce point-là, parce qu'on a encore beaucoup de choses à interroger, notamment la question de la nouvelle constitution, la fragmentation du Parlement, etc., etc. Mais Sophie Bessis, quand même un mot sur cette question du terrorisme, Sophie Bessis.
Oui, écoutez, je crois que je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Madame Dakhlia, mais il faut y rajouter qu'en octobre 2011, les élections à la Constituante ont donné la victoire au parti Ennahda, le parti islamiste, qui a remporté plus de
37% des voix,
sièges, plus de 90 sièges, plus d'un tiers des sièges, et que à partir de ce moment-là, Il ne faut pas l'oublier, c'est un élément extrêmement important qui a joué aussi d'ailleurs sur le plan économique, c'est que la Tunisie, avec la bénédiction de ce parti, est devenue une terre de mission pour les expressions les plus extrémistes de l'islam politique. Pourquoi une terre de mission ? Parce que dans les milieux de l'islam politique, la Tunisie était considérée comme un régime mécréant. Surtout le régime de Bourguiba, un peu moins le régime de Ben Ali qui a réprimé les islamistes mais fait des concessions au conservatisme, mais c'était en gros un pays de mécréants. Et que donc, à partir du moment où Ennahda est arrivé au pouvoir, eh bien, ce fut une terre de mission. Et on a vu arriver en Tunisie les prédicateurs les plus extrémistes venus de tout le monde arabe, reçus à bras ouverts d'ailleurs, il faut dire, par le pouvoir de l'époque, et qui ont prêché leur bonne parole. Et cela a eu un impact, effectivement, sur la conversion, disons, à l'islamisme radical d'un certain nombre de jeunes Tunisiens.
Mais en même temps, Sophie Bessis, pardon de vous couper, mais en même temps, ce qu'on remarque, c'est que, alors même que vous avez raison, les premières élections libres, elles sont largement remportées par le parti islamiste conservateur Ennahda. Sauf que quand on regarde la dynamique sur la décennie ensuite, on a les élections de 2014, la CENI d'Atounès, plutôt séculariste, qui va l'emporter, et là aussi, largement, 37% des suffrages contre 27% pour Ennahda. Et quand on regarde le dernier scrutin, Ennahda rassemble seulement, si je puis dire, 17%. Alors, j'ai parfaitement conscience qu'en face de cela, on a d'autres partis qui, en réalité, se sont effondrés politiquement. Mais quand on regarde, on a quand même une dynamique générale baissière de Ennahda.
Non, oui, mais attends, c'est pas comme ça qu'il faut lire les chiffres.
Justement, alors allons-y, aidez-nous.
D'ailleurs, bien sûr, en 2011, on a ces 37%. Ennahda bénéficie de deux choses extrêmement importantes. Un, la répression féroce que ce parti a subie durant la dictature de Ben Ali, et deux, dans la mesure où ce parti n'avait jamais participé au pouvoir, ben il était propre, était considéré comme propre. Et donc, beaucoup de Tunisiens se sont dit, eux, ce sont des gens moraux, et on va voter pour eux. Bon, il se trouve que Ennahda a appris très 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 vite toutes les recettes du clientélisme, de la corruption, et que aujourd'hui ses dirigeants et son appareil dirigeant n'a rien à envier aux autres en la matière. Et d'ailleurs, quand je dis recette du clientélisme, et j'y reviens parce que c'est important économiquement, pendant la période du gouvernement de ce qu'on a appelé la Troïka sous houlette de Ennahda, vous avez eu des recrutements absolument massifs dans la fonction publique, parce que Ennahda s'est constitué une base sociale dans la fonction publique pendant 2 ans et demi, qui fait que aujourd'hui nous avons en Tunisie une fonction publique absolument pléthorique, dont une fonction publique et un secteur public pléthorique, pas seulement dans la fonction publique, qui absorbe plus de 15%, dont les salaires absorbent plus de 15% du produit intérieur brut, ce qui est absolument énorme. Donc cette politique clientéliste a été absolument catastrophique. Maintenant, revenons aux élections. Effectivement, en 2014, feu le président Béjir Caïd Sepsi avait réussi à créer un parti qui n'avait qu'un seul but. C'était gagner des élections et rejeter Ennahda dans l'opposition. Donc, la dynamique de ce parti a été extrêmement puissante, mais en même temps, c'était un parti totalement hétéroclite qui allait de la gauche et de certains membres d'ailleurs de l'ex-parti communiste jusqu'à ce qu'on pourrait appeler le centre-droit avec quelques rescapés présentables de l'ancien régime. Et donc évidemment, pour une série de raisons politiques que je n'ai pas le temps d'expliquer ici, eh bien ce parti s'est très vite effrité, d'autant plus que Béjir Caïd Sepsi a associé Ennahda au pouvoir et que le quinquennat de Béjir Caïd Sepsi a été une co-gestion du pouvoir parce que les Tunisiens appellent les deux chiires Caïd Sepsi et Rached Ghannouchi. Bon.
On va revenir sur ce point, Sophie Bessis, mais vous disiez tout à l'heure dans votre propos introductif que la Tunisie était au bord du guet. Il y a une illustration criante, justement, de cette idée qu'au fond, la Tunisie est un peu aujourd'hui à la croisée des chemins et un peu au bord du guet. C'est la question de la nouvelle constitution, quand je dis nouvelle, celle de 2014, mais qui peine encore à s'appliquer. On va en parler tout de suite.
La Tunisie a une constitution, une loi fondamentale, mettant fin à un demi-siècle de dictature sous Bourguiba et Ben Ali.
Cette adoption est presque un plébiscite sur la constitution de la nouvelle Tunisie, sur la constitution de la Deuxième République.
On l'a fait. On a réussi cela. Non pas pour nous, mais pour nos enfants. Et les enfants de nos enfants.
200 voix pour, 12 contre, 4 abstentions. La majorité nécessaire est largement dépassée pour ce texte, prévoyant un exécutif bicéphale et qui accorde une place réduite à l'islam.
Voilà, donc nouvelle constitution 2014, évidemment une grande fête à l'époque, sauf que quand on regarde les choses, peut-être que la fête est un peu gâtée par un certain nombre de choses, notamment parce que la Cour constitutionnelle, qui est quand même la pièce maîtresse du dispositif, n'est toujours pas en place, comme la plupart des instances constitutionnelles indépendantes prévues par le chapitre 6 de la Constitution, peut-être à l'exception de l'instance supérieure indépendante des élections, qui, elle, est bien en place. Et puis par ailleurs, on a un certain nombre aussi de décrets d'application du Code des collectivités locales qu'on attend toujours. Leïla Dakhli, jusqu'où faut-il se réjouir de cette nouvelle constitution qui sur le papier est très belle, mais qui en réalité a encore énormément de mal à prendre cher, Leïla Dakhli?
Moi, je pense qu'il faut se réjouir de cette constitution, d'abord, parce qu'elle est, elle est là. Une constitution, c'est quelque chose qui est quand même pas très facile à enlever, à supprimer. Et après, il faut réfléchir à la manière dont elle est née et à la manière et au lien entre cette naissance et ce qui se passe aujourd'hui. On le sait, hein, les négociations ont été rudes. On parlait tout à l'heure des deux chires, période qui était vraiment la période de la négociation entre des forces politiques très très différentes en Tunisie et la pression évidemment de la société civile qui s'est exercée, qui a été saluée par le prix Nobel. Tout cela montre à quel point le paysage était aussi divisé. Alors, on a beaucoup insisté sur le succès, mais il faut comprendre aussi à quel point tout ça a été obtenu de longues luttes. Hein. Et donc, c'est aussi ça qu'on retrouve aujourd'hui.
C'est un vrai résultat. Et à l'époque, tout le monde l'avait salué. Mais il y a quand même une question.
Voilà, c'est ça.
C'est quand même des retards criants dans l'application de la Constitution. Et on se demande, finalement, à qui la faute, pour le dire de façon un peu triviale.
À qui la faute, précisément, au fait qu'il faut à chaque fois retrouver un tel consensus pour arriver à obtenir la mise en application de la Constitution, la mise en place de la Cour constitutionnelle. Et il y a des blocages absolument inouïs et parfois difficiles à comprendre, en effet. Hein. On pensait qu'avec la nouvelle présidence, ça allait un peu s'accélérer. Et en réalité, on constate que ce régime étant parlementaire, avec son hystérisation aussi liée à toutes les questions qu'on a soulevées précédemment, hein, les questions de clientélisme, de parlementarisme un petit peu utilisé, chacun l'utilise aussi pour ses propres clientèles, et les tensions, au lieu de se résoudre ou d'aller vers le consensus, ont tendance à s'exacerber dans une course pour le pouvoir qui se retrouve être une course pour le pouvoir individuel, ou en tout cas de chacune des factions. Donc en fait, l'application et la mise en place des réformes issues de la Constitution est complètement entravée par un système politicien qui s'est emballé ces dernières années.
Sophie Bessis, alors il y a le bilan, il y a aussi les perspectives. Quand on regarde les législatives de 2019, elles ont abouti à un Parlement extrêmement fragmenté. On a, je le disais tout à l'heure, ce parti conservateur Ennahda qui est arrivé en tête, 17% des voix. Ensuite, on a le parti au cœur de la Tunisie de Nabil Karoui, le candidat malheureux à la présidentielle qui avait perdu contre justement l'actuel président Kais Saied. Et puis ensuite, on a une myriade de partis qui atteignent péniblement les 4, 5, 6%. Par exemple, le parti de l'ancien Premier ministre Youssef Chahed avait obtenu 4%, c'est extrêmement faible. Comment est-ce qu'avec une telle fragmentation du Parlement, on peut faire avancer les choses, Sophie Bessis?
Eh bien, justement, pour reprendre cette fragmentation du Parlement, vous parliez tout à l'heure d'une baisse des députés de Nahda. Il ne faut pas oublier que le Parlement actuel, par rapport à celui de 2014, connaît une droitisation extrêmement importante, ça c'est, il est nécessaire de le signaler, et que si Nahda a baissé en nombre de sièges, Nahda n'a plus que 52 ou 53 sièges aujourd'hui, c'est essentiellement au profit d'un parti qui est situé à sa droite, qui est explicitement salafiste, et qui est le parti Itilef Karama, qui a une vingtaine de députés. Donc, en réalité, si Nahda perd du terrain, ce n'est pas forcément au profit d'un recentrage modéré de l'Assemblée tunisienne. Mmh. Effectivement, celle-ci est extrêmement fragmentée. Elle est fragmentée parce que je sais que je vais employer un mot peut-être galvaudé en ce moment, mais la déception des Tunisiens et des Tunisiennes vis-à-vis de la classe politique qui gère mal le pays depuis 2011 s'est traduite évidemment par un prurite populiste et l'offre populiste aux élections de 2019 a été extrêmement importante. Alors vous avez deux types de populisme. Le populisme du parti Qalb Tounes que vous avez cité, qui est un style politique en réalité, dans la mesure où son chef Nabil Qarri a été un homme du système. Il s'est présenté comme hors système, mais il était très proche de l'ancien président Béji Caïd Sebsi. Il a été un des fondateurs du parti Nidé Tounes, donc il se présente comme hors système, mais c'est pour avoir un langage près du peuple. En revanche, le véritable populiste aujourd'hui en Tunisie, c'est l'actuel chef de l'État, qui lui est effectivement hors système et qui n'a qu'une parole, c'est « le peuple veut ». Il n'en a pas d'autre, en réalité. Donc c'est une parole qui est à la fois très populiste, très conservatrice, hein, c'est un conservateur, il est tout à fait contre l'égalité dans l'héritage en ce qui concerne, il l'a répété à plusieurs reprises, et donc là, et il a un discours aujourd'hui qui continue d'être un discours de campagne électorale et non pas de président élu. Mmh. Mais le problème, et vous l'avez souligné dans votre présentation de la Constitution, c'est que cette Constitution, qui est hybride à plusieurs points de vue, l'ex-président Hollande disait que c'était la meilleure Constitution du monde, on est...
Alors, ça y est, on vous entend à nouveau.
C'est un régime parlementaire. Vous m'entendez
oui,
là?
Oui, ça y est, on vous entend à nouveau, Sophie Bessis, vous pouvez poursuivre.
Bon, d'accord. Donc, cette Constitution institue une double légitimité. C'est un régime parlementaire. Les parlementaires sont élus au scrutin de liste à un tour, mais le président de la République est élu au suffrage universel. Donc voilà une double légitimité. Et une double légitimité qui est en rivalité constante, en réalité, depuis les élections de 2014. Et aujourd'hui, alors les prérogatives du chef de l'État constitutionnellement sont extrêmement limitées, puisqu'elles se limitent à la défense, aux affaires étrangères, et le chef de l'État est évidemment garant de la Constitution, le chef du gouvernement et le chef de la politique. Et aujourd'hui, ce qui aggrave les choses, non seulement on a un Parlement très fragmenté, mais on a une lutte extrêmement importante entre le chef du gouvernement et le chef de l'État, lequel chef de l'État, disons, se mêle d'une série de dossiers qui, constitutionnellement, ne le regardent pas.
Oui, d'ailleurs, ces tensions, Sophie Bessis, on les a vues très récemment, entre le président et l'exécutif, avec ce limogeage récent par le Premier ministre Hichem Mechichi, du ministre de l'Intérieur, Tawfik Sharfeddine. Ça, c'est l'une des illustrations, sachant que Sharfeddine était par le passé le coordinateur de la campagne de Kais Saied. Peut-être un mot, Leïla Dakhli, sur ce point-là. Sophie Bessis disait à propos du président Kais Saied que c'est un populiste, sachant qu'il y a plusieurs formes de populisme du côté de la Tunisie. Je rappelle que Kais Saied est arrivé en septembre 2019 à la présidence. Il a été élu de façon assez confortable. Il a rassemblé 72% des suffrages, mais en fait seulement 18 au premier tour. Et puis quand on regarde la participation, c'est vrai qu'elle n'était pas énorme. C'était à peine la moitié des électeurs. En revanche, il y avait un fait notable qu'on avait dit, qu'on avait beaucoup souligné à l'époque, c'est le fait que beaucoup de jeunes 18-25 ans avait voté pour lui. Comment vous interprétez à la fois son arrivée au pouvoir, mais aussi peut-être ce qu'il peut permettre ou pas de faire, Leïla Dakhli?
Oui, alors je crois que sur ce qui s'est passé avec Kais Saied, on n'a pas encore assez réfléchi, il me semble. Mmh. Hein, ce mot de populisme, en effet, c'est un populiste, hein, ça c'est incontestable, et la manière dont il a mené sa campagne et dont il continue à exercer son pouvoir montre qu'en effet, il cherche à trouver sa légitimité dans le peuple, ou dans ce qu'on pourrait appeler le peuple, hein. Ça c'est une chose. Après, ce qui s'est passé autour de ce qu'il incarnait mériterait d'être un tout petit peu analysé un peu plus finement, il me semble, hein, puisque En réalité, la plupart de ceux qui ont voté pour lui ont projeté probablement sur lui des intentions, des envies. Et en effet, le fait que la jeunesse ait beaucoup voté pour lui est en cela vraiment intéressant. Et je pense que cette combinaison qu'il incarne, hein, alors quand on dit que c'est un leader populiste, on pourrait imaginer quelqu'un qui serait, à la Berlusconi ou à la. En réalité, c'est tout le contraire. Hein, c'est un personnage extrêmement austère. Un juriste qui parle une langue châtiée, très peu peuple. Voilà, donc il incarne une forme de sérieux en effet de conservatisme qui me semble-t-il est assez peu surprenante vu ce qu'on a dit précédemment sur le fait que ce parlementarisme très exacerbé, le fait que la politique tunisienne soit devenue s'identifier à des personnalités multiples de plus en plus divisées, etc. Le mouvement qui l'a porté au pouvoir peut se comprendre comme une espèce d'envie de calme, de sérénité politique. Alors évidemment, comme ça a été expliqué, ça n'a pas tout à fait fonctionné comme ça. Mais moi, en tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Après, l'itinéraire politique de Rais Saïd est aussi très intéressant, cela qu'il est en effet conservateur sur le plan des mœurs, mais assez progressiste sur le plan des questions sociales, en tout cas dans ce qu'il dit. Hein,
Justement, pardon de vous couper, on va essayer d'aller dans ce sens, voir ce qu'on peut attendre en termes de réformes sociales et sociétales. On parlait de la Constitution 2014, dans son article 46, on avait la question par exemple de l'égalité entre les hommes et les femmes, qui était au cœur du processus démocratique. Et pour passer de la théorie à la pratique, le président Essebsi avait décidé en 2017 de créer une commission sur les libertés et l'égalité, la COLIB, avec pour objectif de faire avancer justement le pays sur tout un tas de sujets sociétaux. Et à la tête de cette commission, on avait une femme, avocate, figure des droits de l'homme et députée, Bochra Belhadj Hamida. On va la retrouver tout de suite.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Je ne veux pas de l'homosexualité, je ne veux pas que l'homme épouse un homme et que la femme épouse une femme. Je ne veux pas de ces libertés. Ce ne sont pas des libertés, c'est destructeur.
Il y a deux jours, il y a eu la manifestation de ceux qui sont contre. Et on les a vus dans la rue et ils ont pu s'exprimer, ce qui est bien, c'est-à-dire bon, c'est ça, c'est quand ça se passe comme ça dans les démocraties. Et c'est à notre tour aujourd'hui d'être là aussi pour soutenir cette commission, pour soutenir ce rapport.
Voilà, manifestation croisée à Tunis sur ceux qui étaient contre cette commission, ceux qui les soutenaient. Et à la tête de cette commission sur la liberté et l'égalité, on avait Bochra Belhadj Hamida qu'on retrouve tout de suite par téléphone. Bonjour.
Bonjour tout le monde et très heureuse année 2021.
Également, et très heureuse année pour vous également, et merci infiniment d'être avec nous ce matin. L'objectif de cette commission, c'était d'établir un rapport et de formuler des propositions concrètes sur le sujet. Ce rapport, il a été rendu en juin 2018. Il y a plusieurs choses. Peut-être la première, je voudrais vous entendre sur les réactions, les controverses, pas dire carrément les levées de boucliers qu'il y a eu à l'époque autour de ce rapport, et puis on va essayer de voir où est-ce qu'il en est aujourd'hui, savoir s'il est complètement enterré ou s'il existe encore. Mais d'abord sur les réactions, est-ce qu'au fond vous vous êtes dit « Bon, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt sain d'avoir ce type de réaction, on a toutes les opinions qui s'illustrent et c'est très bien, c'est ça la démocratie » ou au contraire, vous étiez dit que ce vent conservateur était quand même assez inquiétant, Bochra Belhadj Hamida?
Bien au contraire, pour moi c'était pas inquiétant qu'il y ait les deux idées, si on peut dire, sinon les différentes idées qui se confrontent, et d'ailleurs, contrairement à pas mal de gens, je ne crois pas que les Tunisiens ou une partie des Tunisiens et Tunisiennes soient devenus conservateurs. Seulement, ils ont eu l'occasion de s'exprimer, comme nous aussi, on a eu cette opportunité après la Révolution. Donc moi, je suis absolument contre le fait d'interdire aux gens de parler s'ils ne sont pas dans l'air du temps, disons, ou dans le même sens que les pouvoirs publics ou d'une manière générale dans le courant, disons, donc, ce qui a, personnellement, ce qui m'a dérangé, c'est pas du tout le fait que les gens sortent dans la rue, que les gens disent on est contre, mais peut-être la violence avec laquelle, parfois, les points de vue sont exprimés.
Oui, et vous savez de quoi vous parlez, puisque vous avez très clairement été menacé de mort à l'époque. Vous nous dites, Bochra Belhaj Hamida, vous étiez à l'époque député, hein, vous aviez été député sous l'étiquette du parti Nida Tounes avant de quitter en cours de mandature, mais où est-ce qu'on en est aujourd'hui justement des propositions que vous aviez formulées dans ce rapport?
Moi je trouve déjà ce qui s'est passé est très intéressant dans la mesure où il y avait des sujets tabous comme la question de l'héritage, comme la question LGBT, etc., qui aujourd'hui sont devenus vraiment des sujets de débat même au sein des familles. Il y a eu vraiment un changement au niveau au moins, disons, au niveau du débat, même familial, je ne dirais pas sociétal, je ne dirais pas au niveau des médias, etc. Et ça, c'est extraordinaire. Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de pères qui, après ce qui s'est passé, ont pris l'initiative de régulariser leur héritage et d'octroyer à leurs filles la même part que les garçons. Et je trouve ça magnifique. Maintenant, c'est vrai qu'il semble difficile avec le nouveau Parlement, avec un président qui ne rate pas une occasion pour exprimer ses positions, même quand il n'en avait pas besoin. Donc, c'est un peu difficile peut-être de passer le rapport, ou du moins la question de l'héritage. Mais personnellement, je pense que pour les libertés individuelles, peut-être qu'on peut avancer. D'ailleurs,
vous êtes confiante pour justement un avancement sur le plan législatif. J'entends ce que ça a produit sur le débat public. J'entends ce que ça a produit sur la société parce qu'il y a des évolutions qui se font malgré l'absence d'avancée sur le plan législatif. Mais il y a quand même un moment où il faut avancer sur les textes. Or, jusqu'ici, en la matière, c'est un peu le néant. En tout cas, s'agissant du rapport que vous aviez rendu et des propositions qu'il y avait avec sur l'égalité dans l'héritage, etc., etc.
Oui. Il n'y a pas justement parce que peut-être l'opinion public ou une partie de l'opinion publique ou ceux qui étaient absolument contre toute avancée se sont vocalisés sur certains points qui étaient plutôt litigieux, mais il y avait plein de points, comme par exemple l'autorité parentale. Normalement, les familles tunisiennes ne pourraient pas s'y opposer. Il y a pas mal de questions au niveau des libertés individuelles, comme les droits de l'accusé, comme pas mal de questions que vivent les Tunisiens au quotidien dans la rue, par exemple, par rapport à la police, etc. Donc peut-être, et c'est ce qu'on était en train de parler, de dire il y a un jour, hier, simplement parce qu'on a vu une réunion sur tout cela, donc qu'il faut peut-être focaliser sur les points qui pourraient unir même les conservateurs.
Lesquels, par exemple?
Tout ce qui concerne la sécurité. Parce que les gens ont eu tendance depuis le temps de Ben Ali et bien avant de considérer que, par exemple, la liberté s'oppose à la sécurité. Or, la sécurité aussi, c'est un droit humain, c'est une liberté individuelle. La protection de la vie privée, aujourd'hui, devient un vrai problème. Par exemple, sur les réseaux sociaux, maintenant, les gens souffrent de voir leur vie privée affichée partout. Et vraiment, c'est devenu quelque chose quand même de très, très gênant pour les gens. Et parfois même, ça cause des problèmes au sein des familles, etc. Il y a pas mal de questions sur lesquelles on pourrait s'entendre. Et
quand vous dites on pourrait, ça veut dire que ça sous-entend qu'on n'y arrive pas pour le moment.
Non, parce qu'on n'a pas eu le temps de discuter de tout cela. Malheureusement, nous avons été orientés un peu par les médias, par enthousiasme, parce qu'il faut reconnaître que les médias étaient de notre côté, mais peut-être la focalisation sur certains points qui ne pouvaient pas donner l'opportunité aux Tunisiens et Tunisiennes d'entendre d'autres points, peut-être aussi ça n'a pas facilité la tâche. Aujourd'hui, je pense qu'on pourrait passer par les points déjà sur lesquels nous sommes d'accord et nous serons d'accord. Il y a pas mal de questions. Vous savez, quotidiennement, il y a des gens qui sont arrêtés dans la rue, qui ont des problèmes avec la police à cause des textes qui sont trop flous, où on peut intégrer n'importe quoi, etc. Donc même dans le rapport, on a essayé de rendre les textes plus précis et ne pas donner beaucoup d'opportunités à la justice d'interpréter comme elle le voudrait, etc. Donc je pense que si on essaie ce qu'on est en train de réfléchir et sur quoi on est en train de travailler, c'est de pouvoir ressortir auprès de l'opinion publique, expliquer que chacun va se retrouver. Et il y a vraiment pas mal de questions qui intéressent les jeunes qui sont contre, parce qu'il y a plein de jeunes qui étaient contre et qui sont contre, et qui sont, par exemple, en même temps pour, par exemple, il y a la justice transitionnelle. Or, aujourd'hui, on a le rapport de l'instance de vérité, donc laquelle instance L'UED, d'ailleurs, l'IVD, intègre aussi dans ce rapport plein de recommandations concernant les libertés individuelles et l'égalité. Donc, il y a vraiment, on va se retrouver, les laïcs, entre guillemets, et les conservateurs sur des points qui, jusque-là, on considérait comme des points qui nous séparaient et qui nous divisaient, parce que l'un, la notre initiative est venue de Beijerheit Sepsi, qui était considérée comme progressiste, etc. Et de l'autre côté, c'est-à-dire ceux qui aujourd'hui défendent malheureusement la justice transitionnelle ne sont pas nombreux, non, malheureusement, pour le pays, et ça, on l'a raté, mais qui vont retrouver dans les recommandations et dans les histoires qui ont été racontées, rapportées par les victimes de la répression, beaucoup de violations des droits humains, beaucoup de violations des libertés individuelles, beaucoup de règlements de compte du pouvoir avec les opposants par rapport aux droits des femmes. Les droits des femmes ont été en même temps sur le plan législatif consacrés, renforcés, mais en même temps les femmes qui n'étaient pas d'accord avec le pouvoir ont subi toute forme de répression, etc.
Oui, donc en fait, ça veut dire aussi que le tableau législatif n'est pas complètement noir. C'est-à-dire qu'effectivement, on a eu un certain nombre d'avancées. La loi sur les violences sexuelles de 2017, il y a eu cette abrogation de cette circulaire.
Les violences, c'est une loi qui intègre toutes les violences. Il y a un fait, ce que tout le monde oublie, la levée des réserves sur le CEDAW. Nous sommes le seul pays dans le monde arabe à avoir levé les réserves sur la CEDAW, la Convention internationale contre toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, le droit des femmes de se déplacer librement sans l'accord du mari avec leurs enfants, chose aussi très importante. Donc on a eu des avancées, malgré la peur qu'on a eue au début de la révolution, et je suis convaincu qu'on va en avoir malgré la composition majoritairement conservatrice du Parlement.
Eh bien, on va finir sur cette note positive. Un grand merci, Bochra Belhadj Hamida, d'avoir été avec nous ce matin. غربة وفرقة دنيا الفرحة من لا سرقة ومكتوب الحياة. Voilà, on se quitte, on poursuivra notre série consacrée au printemps arabe, aux 10 ans après le printemps arabe demain. Un grand merci à Leïla Dahlier et Sophie Bessis d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes autrices l'une et l'autre, notamment du l'ouvrage collectif pour vous, Leïla Dahlier, L'Esprit de la Révolte, qui était paru au Seuil. Sophie Bessis, Histoire de la Tunisie de Carthage à nos jours chez Talendier. On mettra tout ça évidemment sur le site de France Culture, sur la page de Culture Monde. Un grand merci à toutes les trois de nous avoir éclairés sur cette Tunisie, sur le chemin de la démocratie, où il y a de la désillusion, mais pas seulement. On poursuit demain. Dans un instant, c'est Elvia Gesbert et la Grande Table. Mais d'abord, c'est Brice Couturier et le Tour du Monde des Idées.
Le Tour du Monde des Idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors ça y est, après des années entières à se mesurer, à se défier, la guerre entre les réseaux sociaux américains et le président des États-Unis a finalement éclaté suite aux graves événements du Capitole, Brice.
Eh oui, Donald Trump est définitivement interdit de séjour sur Facebook et sur sa filiale Instagram, banni de YouTube et Twitter, dont il a fait un usage trépidant, a supprimé définitivement son compte. Le président sortant était pourtant un bon client. Ce réseau social a été pour lui le moyen idéal de contourner les grands médias légitimes qui lui étaient majoritairement hostiles. Avec 88 776 000 followers, il était l'une des 5 personnalités les plus suivies du monde. Beaucoup de ceux qui se sont indignés à juste titre des attaques répétées de Trump contre les institutions démocratiques se réjouissent. Enfin museler le matamor populiste. Malhonnête au point de refuser d'avaliser la victoire éclatante de son rival, 306 grands électeurs pour Joe Biden contre seulement 232 pour Trump, ce qui correspond à 81 millions de bulletins de vote pour le premier contre 74 millions pour le second. Mais justement, 74 millions d'Américains ont glissé dans l'urne un bulletin au nom de Donald Trump. Comment peuvent-ils réagir à la décision des manias milliardaires des grandes compagnies numériques d'interdire de parole leurs candidats? Au nom de quoi messieurs Mark Zuckerberg et Jack Dorsey peuvent-ils priver les fans du Donald de ces messages en rafale? Il y a deux façons de raconter cette histoire, écrivait hier sur le site de The Atlantic Evelyn Dweck, qui travaille au sein d'un cabinet de conseil en Internet affilié à l'université de Harvard. La première, celle dont les plateformes voudraient nous convaincre, c'est qu'elles ont des règlements, qu'ils sont politiquement neutres et que Trump les a enfreints. En particulier en appelant ses supporters à se rendre au Capitole pour tenter d'intimider les membres du Congrès le jour même de la certification des résultats des élections. Mais cette version est qualifiée de « feuille de vigne » par cette spécialiste. La vérité, écrit Evelyn Dweck, c'est qu'un groupuscule minuscule au sein de la Silicon Valley extrêmement puissant a été poussé par ses propres employés au bord de la falaise et prié de sauter. Ce n'était pas la reconnaissance d'une culpabilité, mais une extraordinaire manifestation de puissance, écrit-elle encore. Dorénavant, un petit groupe de gens de la Silicon Valley définit ce que doit être le discours moderne. Ils fixent ostensiblement les limites d'une quatrième dimension où les règles tiennent à la fois de la bonne gouvernance démocratique et du journalisme, et ils le font de la manière qui leur convient.
Oui, et ainsi le porte-parole officiel des talibans ou le président nationaliste Narendra Modi, président indien, reste bienvenu sur Facebook. Le président philippin, Rodrigo Duterte, peut continuer à y insulter nommément des journalistes. Mais Donald Trump, lui, est interdit de séjour. Pourquoi lui? Pourquoi maintenant, Brice?
Ce qui a changé, c'est que Trump va perdre le pouvoir et que le Sénat, qui inquiétait les oligopoles du numérique, va passer aux démocrates. Comme le rappelle Mathieu Slama sur le Figaro Vox, je le cite, « Cela fait des mois que Trump est en guerre contre les GAFAM. C'est sous son mandat que l'autorité de la concurrence américaine a annoncé poursuivre Facebook en justice en demandant à la Cour d'envisager une séparation avec ses filiales Instagram et WhatsApp. C'est sous son mandat que le ministère de la Justice et 11 États américains ont déposé une plainte contre Google pour abus de position dominante dans la recherche de publicité en ligne. C'est encore sous son mandat que la FTC a condamné Facebook à 5 milliards de dollars d'amende pour avoir autorisé en 2018 la firme de conseil britannique Cambridge Analytica à puiser dans les données de quelques 50 millions de ses utilisateurs sans le leur notifier. D'où l'impression désagréable que sous prétexte de défendre les institutions américaines, les oligopoles numériques règlent leurs comptes avec un pouvoir qui a tenté d'entraver leur irrésistible progression. Comme l'explique Aurélie Lutrin, la patronne de CWIC, les GAFAM, ces géants monopolistiques plurisectoriels, constituent dorénavant une menace pour la démocratie. Pas seulement parce qu'ils tendent à polariser l'opinion avec leurs algorithmes, mais parce que leurs patrons partagent des idéologies bien précises, comme le transhumanisme, et que dans leur délire mégalomaniaque, je la cite, ils se comportent comme des criquets, détruisant toutes les entreprises qui auraient pu leur disputer une partie de leur empire. Les compagnies privées qui contrôlent dorénavant l'essentiel du débat public se présentaient comme des espaces de neutralité politique sans ligne éditoriale. Nous savons à présent qu'elles défendent non seulement des idées, mais aussi des intérêts. Comme l'a tweeté hier la députée La République En Marche, Aurore Berger, je la cite, « On peut combattre Trump et le chaos qu'il a entraîné, mais refuser de se réjouir de voir les GAFA décider seuls, sans contrôle du juge, sans recours possible, quel président en exercice a le droit d'avoir un compte sur Twitter ou non ?» Et le député La France Insoumise, François Ruffin, est sur la même ligne. Je le cite, « Trump, c'est pas ma tasse de thé, mais la fermeture désormais définitive de son compte par Twitter me paraît scandaleuse. Doit-on déléguer notre liberté d'expression aux géants de la Silicon Valley? Demain, ce sera pour nous tous cette censure numérique et privée. »
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr, et puis également sur l'application Radio France. On se retrouve demain, Brice, dans un très court instant, c'est Olivia Gesbert et La Grande Table.
France Culture. L'esprit d'ouverture.